bonjour à tous.
À faire pâlir tous les marquis de sable, à faire rougir les putains de la rade.
Sur les nouveaux chemins où nous tentons toute cette semaine de déshabiller la pudeur sans jamais la dénuder, où nous faisons durer la rougeur qu'elle donne aux joues sans jamais tomber dans la coquetterie, où nous prenons le risque de la transgresser pour ne jamais la posséder. Hier, vertu fragile, demain et jeudi, traversée d'éthique et de politique, la pudeur se fait aujourd'hui érotique. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins rougit elle aussi de pudeur. Marianne Chassor, Antoine Ravon, David Pargamin, Colomba Grossi, Lucie Tardy, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Marianne Bassler, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Nicolas Delmas. Rougissez, petit ange, je vous le défends. La pudeur est une chimère. Unique résultat des mœurs et de l'éducation. C'est ce qu'on appelle un mode d'habitude. La nature ayant créé l'homme et la femme nus, il est impossible qu'elle leur ait donné en même temps de l'aversion ou de la honte pour paraître telle. Si l'homme avait toujours suivi les principes de la nature, il ne connaîtrait pas la pudeur. Fatale vérité qui prouve, ma chère enfant, qu'il y a certaines vertus qui n'ont d'autre berceau que l'oubli total des lois de la nature. Mais d'où vient cette rougeur qui colore les joues des jeunes filles? De leur nature pure et chaste, ou de leurs mœurs et de leur morale? De leur vertu ou de leur vice? La pudeur a ceci de paradoxal qu'elle prend la couleur de la nature quand elle jouit de pouvoir être transgressée, qu'elle freine tout autant la bestialité qu'elle en rappelle le possible dérapage. C'est une chimère bien alléchante, d'autant plus quand elle se pare des atours de la pureté. Mais entre le jeu et la sincérité, là encore, la pudeur ne peut trancher. Juste milieu, ou plutôt juste mesure, comment la pudeur n'est jamais pour autant un savant dosage. Bien, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Abramovici, professeur de littérature à l'université Paris-Sorbonne, qui a établi l'édition de la philosophie dans le boudoir de Sade, qui a aussi écrit Encre de sang, Sade, écrivain, ou encore Obscénité et classicisme. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Et comme tous les jours de cette semaine, à l'occasion de la parution de ses entretiens avec Adèle Van Rett aux éditions Plon et France Culture sur la pudeur, eh bien je suis ravie de recevoir Éric Fiat, professeur de philosophie morale et d'éthique médicale à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Géraldine.
Tout l'équipage du bateau, désespérant de son salut, se précipitait en foule à la mer, sur des vergues, des planches, des cages à poules, des tables et des tonneaux. Une jeune demoiselle parut dans la galerie de la poupe du saint Géron, tendant les bras vers celui qui faisait tant d'efforts pour la joindre. C'était Virginie. Elle avait reconnu son amant à son intrépidité. La vue de cette aimable personne, exposée à un si terrible danger, nous remplit de douleur et de désespoir. Tous les matelots s'étaient jetés à la mer. Il n'en restait plus qu'un sur le pont, qui était tout nu et nerveux comme Hercule. Il s'approcha de Virginie avec respect. Nous le vîmes se jeter à ses genoux et s'efforcer même de lui ôter ses habits. Mais elle, le repoussant avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ses cris redoublés des spectateurs. « Sauvez-la ! Sauvez-la ! Ne la quittez pas !» Mais dans ce moment, Une montagne d'eau d'une effroyable grandeur s'engouffra entre l'île d'Ambre et la côte et s'avança en rugissant vers le vaisseau qu'elle menaçait de ses flancs noirs et de ses sommets écumants. À cette terrible vue, le matelot s'élança seul à la mer et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur ses habits, l'autre sur son cœur, et levant en haut des yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les cieux. Cet homme, échappé à une mort presque certaine, s'agenouilla sur le sable en disant « Ô mon Dieu, vous m'avez sauvé la vie. » Mais je leur ai donné de bon cœur pour cette digne demoiselle qui n'a jamais voulu se déshabiller comme moi. Elle était à moitié couverte de sable dans l'attitude où nous l'avions vue périr. Ses traits n'étaient point sensiblement altérés. Ses yeux étaient fermés. Mais la sérénité était encore sur son front. Seulement les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec les roses de la pudeur.
Et c'est ainsi que meurt Virginie dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, qui date de 1788. On a entendu interpréter par Marianne Bassler donc le moment où Virginie se noie. Elle se noie en fait d'un excès de pudeur, c'est-à-dire qu'elle préfère mourir noyée que de dévoiler son corps. Et cette phrase, les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec les roses de la pudeur, dénote ce statut un petit peu ambigu de la pudeur, à la fois quelque chose de naturel qui vient colorer les joues et en même temps signe d'un excès de morale qui préfère conduire à la mort que de garder la vie. Jean-Christophe Abramovici.
Oui, non, c'est un passage magnifique qui révèle toutes les ambiguïtés que Bernardin de Saint-Pierre a donné, excusez-moi, au personnage et à son roman. Jean Erard, qui est un grand commentateur d'Hutemis, disait que la pudeur de Virginie était une force de mort, acquise ou naturelle, parce qu'on ne sait pas véritablement quand Virginie devient pudique. Vous savez que donc le roman raconte son éloignement de l'île où elle vivait des amours idylliques avec Paul. Elle part pour l'Europe et pour recevoir donc une éducation. Est-ce là que elle a perdu son innocence naturelle et que donc elle a appris qu'une jeune fille ne doit pas se déshabiller et ce qui entraîne sa mort lors du naufrage, ou bien était-elle naturellement pudique, ce que le roman démentirait plutôt, puisque avant qu'elle ne parte, il y a cette fameuse scène du bain de Virginie, où la jeune fille découvre les émois de l'adolescence, s'empourpre et peut-être se masturbe, même si bien sûr c'est dit en des termes beaucoup plus pudiques par Bernardin.
Éric Fiat.
Oui, c'est en effet un très très beau passage, et vous en parlez fort bien. Je me demande si Virginie n'est pas plus digne que pudique. D'ailleurs, dans l'extrait que nous avons entendu, Bernardin de Saint-Pierre fait deux fois allusion à la dignité de Virginie. Et si vous voulez, je dois expliquer pourquoi il a semblé à Adèle Vendrette et à moi-même que la pudeur était la plus érotique des vertus. C'est sans doute parce que elle a, selon moi, beaucoup plus de charme que ses sœurs, à savoir la dignité, la coquetterie, la décence, la pruderie. La dignité, il en fut question. Bon, le rapport entre pudeur et dignité est évident parce qu'on dit qu'on se drape dans sa dignité. Blesser la pudeur, c'est blesser la dignité. Mais il me semble que la pudeur a certaines grâces, alors que la dignité, c'est un maintien, une contenance sans grâce. La dignité, non pas au sens kantien et ontologique du terme, mais au sens bourgeois du terme, c'est, vous le savez, l'art de se retenir, l'art de bien se tenir. Si vous dites après un enterrement que ce fut une cérémonie très digne, cela signifie que nul ne s'est laissé aller, ne s'est jeté à terre, n'a crié. La femme très digne ne sort jamais dans les rues du bourg que les poings, les lèvres et les fesses serrées autour de son sentiment de dignité. Elle se tient, elle se contient. Elle se maintient, elle se retient. Mais je trouve que ce maintien, cette tenue, sont simplement éthiques, alors que la pudeur est aussi esthétique. La pudeur est belle, ce n'est pas la beauté de la coquetterie qui a quelque chose de trop calculé, qui est une simagrée, une fiction de pudeur, une retenue qui s'exhibe, une réserve qui s'annonce à grands cris. Non, la pudeur a quelque chose de beau. Elle est douce alors que la dignité est dure, la pudeur fait se rétracter, la dignité se redresser, la pudeur est humide et troublante, la dignité est sèche et roide. Et voilà pourquoi il me semble que la dignité est beaucoup plus émouvante. Pardon, que la pudeur est beaucoup plus émouvante que la dignité. Il me semble que ce qui a empêché Virginie de se laisser sauver, c'est plus son souci de dignité que sa pudeur. Et le commentateur auquel vous avez fait allusion dit que la pudeur de Virginie est une force de mort. Moi, il me semble que la dignité est une force de vie.
Alors, Virginie ne serait pas érotique, finalement. Si elle est plus digne que pudique, évidemment, elle aurait une forme de froideur qui est le contraire de la pudeur. Mais on peut aussi faire une lecture inverse de ce passage, à savoir dire que il y a une forme de ridicule plutôt qu'un éloge de la pudeur ou qu'un éloge de la dignité, voire peut-être qu'il y a une distance de ce texte qui établirait une forme de distance et qui critiquerait, qui tournerait en ridicule, en fait, cette pudeur excessive, ou peut-être devenue dignité, qui entraînerait Virginie à la mort. Est-ce qu'on peut aussi faire cette lecture-là de ce passage?
Alors, en parlant de pudeur excessive, il me semble que vous me donnez raison, dans la mesure où, lors de notre émission d'hier, nous proposions avec Aristote que la dignité fut la juste mesure entre ce vice par défaut, manque de dignité, qu'est l'obscénité, et ce vice par excès, qu'est la pruderie. Et je crois en effet qu'il ne faut pas confondre la dignité, qui est érotique, qui est, je dirais, l'allié involontaire du désir, son levain irréfléchi, et la pruderie. La pruderie, c'est la réduction de la pudeur à ses formes sociales d'expression. Et on passe de la pudeur à la pruderie quand les formes d'expression de la pudeur perdent tout rapport au vivant, je dirais au sentiment vivant de pudeur qui autrefois les soutenait. D'ailleurs, Stendhal, après qu'il a fait l'éloge de la pudeur, disant qu'elle est la mère de l'amour et donc qu'on ne saurait rien lui contester, dit qu'il faut se méfier de la pruderie, qu'il définit comme une espèce d'avarice, la pire de toutes. Et alors, cette idée de juste mesure, que je proposais avec Aristote, eh bien, elle doit faire comprendre que l'obscène est plus proche de la prude qu'elles ne le sont toutes deux de la pudique. Car il me semble que ni l'obscénité ni la pruderie ne suscitent le désir. L'obscène coupe l'herbe sous les pieds du désir, montrant trop vite ce que l'on n'a même pas eu le temps de désirer. La pruderie, elle, eh bien, finit par décourager le désir.
Et pourtant, Virginie peut être un petit peu petitiller le désir, peut être esthétique, peut donner envie, peut susciter quelque chose, Jean-Christophe Abramovitz.
Oui, pas dans cette scène.
Pas dans cette scène, voilà.
Pas dans cette scène.
Exactement.
Mais bon, alors... Le dialogue qui nous réunira ou nous opposera peut-être va être entre une démarche un petit peu qui est la vôtre, qui essaye en tant que philosophe de classifier, et mon expérience des textes me montre quand même qu'il ne faudrait pas essentialiser la dignité, ce qui est formidable. Et justement, là, on a une scène où vous avez, selon les catégories que vous posez, envie de dire, et je vous comprends parfaitement, que Virginie est ici plus digne que pudique, mais, manque de peau, Bernardin emploie le mot pudeur.
Il emploie deux fois le mot dignité aussi.
Oui, d'accord, mais il y a aussi le mot pudeur, et donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas figer les choses. Et en tout cas, alors, cette scène-là, effectivement, elle est digne, elle est peut-être pudique selon les codes de l'éducation bourgeoise, et elle en meurt. Les scènes érotiques appartiennent plutôt au moment précédent du roman, à un moment où justement Virginie est plus dans un rapport à la nature. Et il n'empêche que le discours de Bernardin est ambigu et qu'il ne tranche pas sur l'origine de cette pudeur mortifère. Mais il y a bien sûr beaucoup d'érotisme, un érotisme qui est lié à une exaltation de la nature, qui est aussi lié aux sentiments religieux chez Bernardin de Saint-Pierre, et qui encore une fois regarde ce moment édénique avant justement qu'ils ne prennent conscience et de leur jeunesse et de leur nudité.
Cet impudique est trop fortement proportionné, et la nature se révolte en moi au seul soupçon de ses plaisirs.
Depuis que tu n'en as plus, te font peur les plaisirs?
Tu n'y es pas, Colin. C'est mon héroïne qui parle.
Oh, mon père! Oh, je suis la plus misérable des créatures! Une pécheresse vouée aux flammes de l'enfer!
Ne désespérez pas de la clémence divine, ma fille. et avouez-moi vos péchés.
J'avais retiré mes vêtements, un par un, pour prendre un bain dans la rivière.
Un instant.
Tandis que les trois autres me maintenaient au sol, un quatrième gentilhomme, le visage dissimulé par un masque, abusait de moi de toutes les façons possibles.
Pas si vite, mon enfant. Et comment a-t-il commencé ? Par ici ? Ou par là ?
Par derrière.
Par derrière ? Quelle étrangeté me racontez-vous là ? J'ai besoin de détails, mon enfant. Est-ce que vous aviez gardé votre petit linge intime ?
Ma foi...
Vous l'a-t-il arraché ? Déchiré, peut-être ?
Troué ! Il m'a prise à travers la dentelle, mon père !
Juste après l'instinct de nutrition par lequel la nature conserve chaque individu, le plus important est l'instinct sexuel, grâce auquel la nature pourvoit à la conservation de chaque espèce. Or, la raison, une fois éveillée, ne tarda pas non plus à manifester ici aussi son influence. L'homme ne tarda pas à comprendre que l'excitation sexuelle, qui chez les animaux repose seulement sur une impulsion passagère et le plus souvent périodique, était susceptible chez lui d'être prolongée et même augmentée sous l'effet de l'imagination qui exerce son action avec d'autant plus de mesures sans doute, mais aussi de façon d'autant plus durable et d'autant plus uniforme que l'objet est soustrait au sens. Et il comprit également que cela préservait de la satiété qu'entraîne avec soi la satisfaction d'un désir purement animal. La feuille de figuier fut donc le résultat d'une manifestation de la raison bien plus importante que celle dont elle avait fait preuve lors de la première étape de son développement. Car rendre une inclination plus intense et plus durable du fait que l'on soustrait son objet au sens manifeste déjà la conscience d'une domination de la raison à l'égard des impulsions et non plus seulement, comme à la première étape, un pouvoir de les servir à plus ou moins grande échelle. Le refus fut donc l'artifice qui conduisit l'homme des attraits simplement sensuels aux attraits idéaux, et peu à peu du désir simplement animal à l'amour, puis avec ce dernier du sentiment de ce qui est simplement agréable au sentiment de goût pour la beauté, d'abord seulement pour celle de l'homme, mais également, par la suite, pour celle de la nature.
Kant et Sade, une alliance un petit peu inattendue. Kant, dans ses conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, qui date de 1786, dont on vient d'entendre un extrait interprété par Marianne Bassler, et puis Sade, mis en scène dans le film de Henri Xeneux, qui date de 1989, qui s'appelle Marquis. En fait, c'est des marionnettes faites par Roland Topor qui mettent en scène le marquis de Sade, qui raconte des histoires qui ponctuent ses romans et qui les raconte à son sexe, il faut quand même le dire. Et donc, Kant et Sade, deux positions qui, effectivement, comme Bernardin de Saint-Pierre, ne vont pas trancher entre la dimension naturelle ou culturelle de la pudeur, mais vont au contraire lier les deux, vont en faire un rapport à la loi. Kant dit que la loi va transformer en fait cet instinct sexuel, va le prolonger, et Sade, lui, va jouer avec cette loi morale et va produire tout ce qu'on connaît à partir de cette transgression de la loi. Jean-Christophe Abramovici.
Oui, le grand commentateur de ce rapport, c'est Lacan, dans son célèbre article Kant avec Sade. Je ne me risquerai pas à le gloser ou à en essayer de dégager les principales lignes, même si la réflexion de Lacan porte précisément sur cette question de la loi morale. Les deux objets sont très différents. J'aurais tendance à dire que Kant rationalise un discours qui est est présent quand même depuis très longtemps dans l'Occident. Vous ouvrez Charon de la sagesse, vous trouvez pratiquement exactement le même raisonnement expliquant l'origine à la fois naturelle et artificielle de la pudeur. Sade est un écrivain qui, arrivant à la fin du XVIIIe siècle, me semble vouloir d'abord attaquer justement toute cette construction bourgeoise d'un certain nombre de valeurs et de leur naturalisation. Et c'est pour ça que, à la fois, il verse dans l'obscénité pour tout ce qui est représentation, hein, mais il faut aussi rappeler que les tableaux sadiens, au-delà de la crudité, vont jusqu'au meurtre et jusqu'à une violence qui dépasse très largement la question simplement de la pudeur. Mais par ailleurs, ce à quoi il veut véritablement tordre le cou, c'est à toutes ces valeurs bourgeoises qui ont été naturalisées. C'est-à-dire qui d'artificiel ont été greffés, essentiellement par le discours médical, dans le corps.
D'où le rose aux joues qui apparaît sur le visage des jeunes filles. Rick Fiat, Sade et Kant sont-ils si éloignés? L'un est libertin, l'autre moral, l'un veut renverser la loi, l'autre la prône. Est-ce que leur point commun, c'est finalement tout ce jeu avec la loi, c'est-à-dire que sans loi, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de pudeur et donc il n'y a pas de plaisir?
Oui, alors il est vrai que le texte de Kant ne dit rien de très nouveau, qu'il rationalise en effet ce qui fut dit dans des textes littéraires auparavant. Mais déjà, j'ai envie de rendre hommage à Kant d'avoir assumé ce corpus de textes. À propos de la littérature et de la philosophie, je n'aimerais pas que notre débat se réduise à une sorte de tension à ce sujet. J'aime beaucoup la formule de Michel Serres qui disait un jour « La littérature est supérieure à la philosophie ». Elle aborde les questions existentielles avec une telle finesse que vraiment la littérature est supérieure à la philosophie. Et il ajoutait très vite « Mais cependant, la philosophie est peut-être quand même supérieure à la littérature ». Parce que la philosophie sait que la littérature est supérieure à la philosophie, alors que la littérature a toujours un peu peur de la philosophie. Bon, restons dans la certitude suspensive d'un débat, mais je reviens à cette idée. Oui, nous disions hier que la philosophie a tendance à aborder la réalité humaine à partir de concepts, et qu'en allemand, le concept, Begriff, désigne quelque chose comme une prise du monde. Je disais, espérer hier que la réalité humaine, eh bien, on l'aborde pendant ces rencontres à partir de la caresse plutôt qu'à partir de la prise. Et donc, je ne veux pas durcir les distinctions avec Adèle, j'ai proposées dans ce livre. Caresser, c'est chercher des foyers de pérennité. Mais je ne veux pas séparer toutes ces notions selon un cadastre trop bien découpé. Alors, il n'empêche que la pudeur me paraît justement une notion oscillante. Hein. Étant donné qu'elle est une puissance de honte ou une honte en puissance, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. C'est un trouble dont on ne sait pas s'il va s'élever vers le ciel de la joie d'avoir ce corps ou dans l'abîme de la honte de l'avoir. Alors à propos de Kant, non seulement bravo à Kant, alors qu'on présente souvent comme un philosophe rigoureux et même rigoriste, d'avoir assumé philosophiquement et rationnellement ce beau lien établi par bien des écrivains entre le désir et la pudeur. Et j'ajoute un petit mot, c'est que ce texte est plus coquin qu'on aurait pu le penser, car lorsque Kant dit que la feuille de figuier, eh bien, fut un grand progrès dans la civilisation, puisque outre la décence, elle permit le désir, il ajoute que cette feuille de figuier, elle fait que l'objet est soustrait au sens, et il met sens au pluriel. Quel est cet objet qui est soustrait au sens par la feuille de figuier? Eh bien, c'est le sexe d'Ève pour Adam et le sexe d'Adam pour Ève. Et s'il met sens au pluriel, ça veut dire que la feuille de figuier n'a pas seulement enlevé le sexe d'Ève à la vue d'Adam, mais aussi à son toucher, à son ouï, à son goût. Bref, il y a dans ce texte quelque chose d'un peu coquin que j'ai plaisir à mettre en valeur pour que, eh bien, on rende hommage, enfin, en effet, à ce lien entre la pudeur et le désir. Alors, je ne pense pas du tout, pour ma part, que la pudeur soit une valeur bourgeoise. Il me semble que la pudeur est une constante anthropologique Il me semble qu'à partir du moment où l'homme prend conscience de son corps, eh bien, il a avec lui un rapport troublé. Il me semble que le rapport entre l'esprit et le corps n'est jamais stabilisé complètement chez les hommes. Je définissais la pudeur comme l'esprit qui rougit du corps. Voilà pourquoi elle me semble en effet une spécificité humaine, parce qu'il faut être à la fois esprit et corps, une dissonance incarnée, une bigarrure, un être ambigu pour connaître la pudeur. Car le pur esprit a l'esprit qui pourrait rougir, mais non point le corps dont il pourrait rougir. Le pur corps a le corps dont il pourrait rougir, mais non point l'esprit qui pourrait en rougir. Eh bien, il me semble que là, il y a une constance anthropologique. Le rapport de l'homme à son corps est un rapport qui n'est jamais totalement facile. Que la bourgeoisie se soit saisie de cette constance anthropologique et qu'elle lui ait donné une signification dure. Alors, à mon avis, qui va plutôt du côté de la pruderie que du côté de la pudeur. Soit, mais que la pudeur soit une construction bourgeoise, ça, je ne le crois pas. L'assomption bourgeoise de la pudeur, qui me semble existentielle, hein, eh bien, susciterait en effet plutôt chez moi le cynisme, parce que, en effet, cette pruderie a quelque chose de désagréable, à quoi on a envie de s'en prendre. Mais j'ai envie de... Le cynique Diogène, qui se masturbe en public, qui défait en public, s'en prend-il à la délicate pudeur ? Non, je pense qu'il s'en prend plutôt à la roide pruderie. Et personnellement, j'ai envie de renvoyer dos à dos la niaise pruderie des engoncés et l'ironie cynique des affranchis.
Jean-Christophe Armoisi.
Oui, il y a... Quand je parlais de bourgeois, j'essayais un petit peu d'historiciser la question. Quand les élites bourgeoises de la fin du XVIIe siècle commencent un petit peu à avoir plus de visibilité, ils fabriquent des codes de civilité qui sont justement en regard des mœurs aristocratiques. Dans les mœurs aristocratiques, effectivement, on n'allait pas... plus on montait dans la hiérarchie, plus on avait le droit de se montrer nu devant des serviteurs qui n'étaient absolument... qui ne comptaient pour rien. On pouvait même déféquer en public, voilà. Et tous les codes de comportement bourgeois se sont quand même construits et c'était pas appelé pruderie, c'était effectivement appelé pudeur. Et il faut pas oublier non plus un autre élément, et cela pour expliquer le travail des philosophes du XVIIIe siècle, c'est la découverte des mœurs sauvages par les récits de voyage qui rapportent que dans des populations vivent nues, justement, sans sentiment de pudeur. Et c'est quelque chose. Alors, ensuite, peut-être que les anthropologues modernes vont montrer qu'il y a des réflexes de pudeur qui passent par d'autres codes. Mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on a reçu ces récits de voyage à partir de la fin du XVIIe siècle, où on se rend compte que des êtres, par ailleurs, absolument moraux, vivent absolument nus. Et c'est des éléments très importants dans la prise de conscience de ce caractère de construction culturelle sur des réflexes qui semblaient innés.
Éric Fiat.
Mais j'allais justement vous dire que les anthropologues d'aujourd'hui, les ethnologues d'aujourd'hui, nous ont appris que le regard des visiteurs de ces peuplades dites sauvages ou primitives, enfin, était fort peu fin. Dans la mesure où ce n'est pas parce que l'on est sans vêtements que l'on est nu. Et donc, parfois, le vêtement se réduit à l'épilation. Aucun homme ne laisse son corps à l'état de nature. Pour nous autres occidentaux, ne pas laisser son corps à l'état de nature, c'est en effet le vêtir. Et nous ne sommes pas nus tant que nous portons le string, cette terrible étoffe qui est le seul remède à la nudité radicale. Dans d'autres civilisations, ne pas être nu, eh bien, c'est peut-être se promener le sexe nu, mais c'est avoir une tache de peinture au milieu du front, c'est être épilé. Et donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut considérer en effet l'histoire, mais la considération de la différence des civilisations ne doit pas nous faire oublier quelque chose, enfin, que je propose comme une constance anthropologique. L'homme, quel qu'il soit, sous quelque climat qu'il ait vécu, a un rapport un peu difficile difficile à son corps. La preuve en est, c'est qu'il ne le laisse pas à l'état de nature.
C'est précisément ça qui est intéressant avec la pudeur. C'est justement qu'elle n'est jamais laissée à l'état de nature ou qu'elle n'est jamais ou qu'elle va justement être naturalisée, mais qu'elle va être ressaisie par quelque chose qui serait de l'ordre de la culture, une loi morale, des jeux, des codes. Et c'est ça qui est intéressant avec la pudeur. C'est justement de voir le jeu qui s'instaure et qui n'est plus un jeu avec notre nature, mais qui serait justement un jeu entre cette nature et cette culture. Et c'est ça qui me semble être intéressant et que ce soit Kant ou Sade mettent bien en avant, que ce soit dans une dimension politique pour Sade ou dans une dimension beaucoup plus morale pour Kant. Jean-Christophe Abraham aussi.
Je vous rejoindrai. L'autre élément quand même que je souhaiterais rajouter, c'est que il ne faut pas oublier que le discours de la pudeur regarde essentiellement la place réservée aux femmes. Et ça, c'est vraiment une dimension à laquelle là, je tiens véritablement. C'est dans le discours sur les femmes, sur leurs moyens, leurs droits et leur mode de comportement. Là encore, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, aussi bien d'ailleurs dans la littérature médicale qui leur est consacrée, que commence à émerger un discours de la pudeur. Et le même discours qui parle d'une pudeur naturelle pour les femmes, va, dans les mêmes textes, parler d'une impudeur naturelle aux hommes. Cette opposition très marquée, vous allez la trouver jusqu'à chez Rousseau, hein, pour lequel il est normal que la femme se cache et que l'homme soit entreprenant. Il ne serait pas viril sans cela. Et les Lumières, qui est un siècle certes éclairé, a plutôt eu tendance à raidir justement ses positions et à préparer ce qui va être l'enfermement domestique de la femme. Et donc la pudeur devient un corset. Véritablement un corset idéologique, avant peut-être, enfin c'était un corset vestimentaire pendant ces siècles-là, et c'est quand même très amusant qu'au même moment où on abandonne le corset vestimentaire, hein, les mêmes années, là, deuxième moitié du XVIIIe siècle, on leur impose un corset moral et avec une pudeur qui est, leur est supposée, consubstantielle.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite.
Il est 10h33, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et c'est le deuxième temps de notre semaine sur la pudeur, à l'occasion de la parution chez Plon et France Culture des entretiens d'Adèle Van Rett avec Eric Fiat, professeur de philosophie morale et d'éthique médicale à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Eric Fiat avec nous toute cette semaine et aujourd'hui pour parler de la pudeur aiguillon érotique en compagnie de Jean-Christophe Abramovici, professeur de littérature à l'université Paris-Sorbonne.
Oh, quoique je sois assurément très fâchée contre vous, il m'est impossible de ne pas rire de la singularité de ce qui m'arrive. De quoi vous avisez-vous aussi de vous obstiner d'entrer dans un lit où l'on ne vous désire pas du tout? Lorsqu'il y en a tant ici où je suis sûre que vous auriez été reçue à bras ouverts.
Je ne puis pas douter, par exemple, qu'Araminte ne m'eût bien voulu faire cette grâce. Mais je crois qu'elle est la seule chez vous de qui je puisse l'attendre.
Et la seule, peut-être, de qui vous ne la voulussiez point recevoir. Si Julie, par exemple...
Julie. Si bien absolument Julie le voulait, je ne lui tiendrais pas rigueur comme à l'espèce de monstre dont vous me parlez.
C'est-à-dire que vous avez plus trouvé dans Julie de cette espèce de sensibilité qui vous amuse tant que l'autre ne vous en a montré.
Vous êtes donc bien convaincu que cette vertu, quand nous la rencontrons chez une femme, nous tient absolument lieu de tout ?
Non, mais je suis persuadée qu'elle vous leur fait pardonner beaucoup de choses.
Il est réel qu'elle nous en plaise davantage.
Une femme est-elle comme Araminte ? Elle vous ennuie. Joue-t-elle ce qui lui manque ? Elle vous choque. En a-t-elle ? Quelque plaisir qu'il en résulte pour vous, vous la craignez. Comment faut-il donc qu'elle soit à cet égard pour vous plaire ou pour ne pas vous causer d'inquiétude ?
Comme vous, madame, qu'elles aient cette sensibilité modérée que l'amant lui-même est obligé de chercher, qui n'est ému que par sa présence, déterminé que par ses caresses, et que tout autre que lui voudrait vainement éveiller.
J'ai passé toute la soirée chez la jeune comtesse. J'étais masquée et son capuchon faisait le même effet. Trouvant tout cela prodigieux, nous imaginions sans nous le dire que tout cela n'était qu'un ouvrage immédiat de la Providence éternelle, de la divinité de nos bons anges gardiens, et nous devenions ainsi amoureux l'un de l'autre. Ne voyant dans ses yeux ni l'orgueilleuse indignation, ni une froide complaisance dépendant d'une indigne crainte de me perdre, je me suis abandonnée à ma tendresse. Je n'ai vu que l'amour et une reconnaissance qui, bien loin de diminuer sa pureté, augmentait mon triomphe. Mais à peine desserrée, elle baisse les yeux et j'entends un fort soupir. Minuit était sonné. Je lui dis que son honneur m'oblige à la quitter. Je me remasque et je pars. Je me suis trouvée si saisie par la peur d'obtenir ce qu'il me semblait de n'avoir pas encore bien mérité que mon départ dut paraître brusque. Je n'ai pas bien dormi. J'ai passé une de ces nuits qu'un jeune homme amoureux ne peut rendre heureuse qu'obligeant l'imagination à jouer le rôle de la réalité. C'est une besogne, mais l'amour l'exige et s'y plaît. Dans la certitude où j'étais de mon bonheur imminent, l'espérance ne jouait plus dans la belle pièce qu'un personnage muet. Éric Fiat et Jean-Christophe Abramovici, on a entendu tout d'abord un extrait un texte que j'ai lu de Casanova, qui est extrait de l'histoire de ma vie. Et puis on a entendu juste avant de Crébillon fils, La nuit et le moment, où on entend le personnage de Clitandre qui révèle cette juste mesure de la pudeur entre la pudibonderie et l'obscénité. Quant à lui, Casanova réserve le bon moment pour conquérir la femme qu'il convoite. On voit bien à ce moment-là que la pudeur agit aussi est un aiguillon, est un ingrédient de la séduction, ce qu'on n'a pas vraiment encore abordé jusqu'ici. Oui, Jean-Christophe Abramovici.
Si je peux revenir un petit peu sur cet exemple de La nuit et le moment, c'est vraiment un exemple absolument passionnant pour réfléchir à cette question. C'est donc un roman dialogué. En deux secondes, la situation est la suivante. Cydalise est dans sa chambre, dans un hôtel ou une maison de campagne où il y a une vingtaine d'invités, et Clitandre rentre dans cette chambre avec la ferme intention de coucher avec Cydalise, et le roman raconte le dialogue qui va mener à cette scène. Un peu plus tôt, une petite citation, Cydalise, un petit peu choquée de voir arriver Clitandre, lui dit « Je crois ne mettre dans ceci ni humeur ni ce qu'aujourd'hui on appelle bégueulerie, et qui pourrait être bien ce que l'on appelait pudeur autrefois, mais je vous avoue que je ne comprends pas comment vous avez imaginé de paraître devant moi dans l'état où vous êtes, c'est-à-dire nu sous sa robe de chambre. » Et alors, effectivement, elle s'interdit de prononcer le mot pudeur, parce qu'elle est supposée être une libertine, une femme qui est au-dessus de tous ses préjugés. Et en même temps, le problème d'interprétation que pose ce roman, c'est de savoir si on a véritablement affaire à deux adultes consentants. Dans un colloque il y a quelques années consacré aux violences du rococo et qu'avait co-organisé René Desmaurice, qui nous a quitté cette année, je me permets de lui rendre hommage parce que c'est un des plus grands commentateurs des textes du XVIIIe siècle, j'avais proposé une lecture de ce roman comme récit de viol, parce que Cydalise, toute amoureuse qu'elle est sans doute de Clitandre, toute prête à coucher un jour, un moment, cette nuit-là ne le veut pas. Et La nuit et le moment est un texte passionnant pour montrer la violence masculine. La question est débattue. Hein, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec cette lecture. Mais j'invite tout le monde à relire ce roman. C'est un milieu aristocratique, là. Ils sont supposés ne pas avoir de pudeur et vivre très librement leur corps. Et en même temps, justement, en elle... c'est pas une question de pudeur, mais elle n'a pas...
Il y a quelque chose qui résiste, finalement.
Qui résiste, et surtout, elle ne veut pas, dans le moment présent, coucher. Et c'est ce qu'on appelle techniquement un viol, aujourd'hui, devant les tribunaux.
Éric Fiat.
Ah ben, ce que vous dites m'enchante, parce que voilà donc une femme qui, si tout est construit, devrait ne pas résister... Et pourtant, elle fait elle-même la distinction entre la bégueulerie, ou autre beau concept, hein, et la pudeur. Je crois que la séduction, c'est une kairologie. J'ose ce mot qui appartient au patois des philosophes. En philosophie, le kairos, c'est le mot grec qu'on a traduit par « moment opportun », « occasion propice ». Et la kairologie, c'est la science du moment opportun, la science de l'occasion propice. Talleyrand, qui était un grand séducteur et cependant fort laid, avait eu ce mot sublime, la beauté, ça ne fait jamais gagner que 15 jours. Autrement dit, la laideur faisait perdre 15 jours et il fallait en effet 15 jours de plus à Talleyrand pour séduire s'il avait été beau. Mais en même temps, si Talleyrand séduisait, c'est parce qu'il avait ce sens du moment opportun. Il y a un moment pour prendre la main. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et alors, en effet, je pense que tout est affaire de kairos et surtout d'attente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'attendre le bon moment. Les trois textes. Non, c'était une chanson, mais enfin, c'est un texte aussi. La chanson de Julie Gréco, puis Crébillon, puis Casanova. Dans les trois cas, je trouve qu'est fait magnifiquement ce lien entre l'érotisme et l'attente. Moi, je définis le désir comme l'attente de ce qui n'attend pas. Alors, à la fois, ça n'attend pas parce qu'il faut à Clitandre cette femme, puisqu'il faut à Casanova cette femme, puisque elle a envie qu'on la déshabille. Mais en même temps, il faut que ça attende un petit peu. Louise de Villemorin disait « La pudeur fait le prix des abandons comme le charme de l'amour. Ce qui aura été se sera fait attendre un peu plus longtemps aura d'autant plus de charme qu'il se sera fait attendre. Valérie disait « Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser, à l'habitant de tes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. » Ces vers magnifiques nous montrent, nous disent le lien qu'il y a entre le désir et l'attente. Et voilà pourquoi il me semble que la pudeur n'est pas l'obstacle au désir, mais son levain irréfléchi, son involontaire allié, parce que le désir, c'est une érotique de l'attente. Une psychanalyste, José Morel, 5 mars, définit la pudeur comme étant la paupière du désir, un désir de voile qui s'articule à un désir de voir. Je trouve ce texte magnifique. Pour le dire simplement et plus banalement, on dit souvent que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Eh bien, ce n'est pas sûr, car certes, s'il existe une gêne roide qui n'a pas d'intérêt, qui est peut-être la bégueulerie, il existe une gêne beaucoup plus troublante qui participe du plaisir et au plaisir. Et il me semble que c'est la pudeur.
On peut renverser la perspective aussi et se dire que si la pudeur est érotique, toute érotique se fonde-t-elle à l'inverse sur la pudeur ? C'est-à-dire que toute érotique repose-t-elle sur cet effet de ralentissement, d'attente, de tempo, de se donner tout en se refusant, de rougir ? Est-ce que toute érotique en fait comprend une dimension pudique ?
Et impudique aussi, mais peut-être que... Jean-Christophe a quelque chose à se dire. C'est un jeu sur la pudeur et l'impudeur. C'est le bon moment où on va avoir la joie d'être impudique. Le même mot, pas dit au bon moment apparaîtra comme violent, dit au bon moment apparaîtra comme charmant.
Si on parle de la vérité des corps, de ce que chacun d'entre nous peut expérimenter du plaisir de l'attente, je ne vais pas faire de généralisation, je pense que ça dépend absolument de chaque personne. Et effectivement, que dire que l'attente est un ingrédient essentiel de l'érotisme, c'est évident. L'équivalent de cela dans la littérature érotique, c'est effectivement la gestion du temps. Hein, et c'est ce qui va distinguer effectivement une littérature érotique qui va soit évoquer des scènes, soit faire attendre très longtemps une scène, d'une littérature pornographique qui va être un petit peu plus réglementée sur, alors du moins celle de bas de gamme, hein, sur un rythme physiologique du lecteur qui est celui de la masturbation, dans une perspective très masculine, là encore. Et l'équivalent de l'attente et aussi de la nudité, c'est le degré de voile linguistique. Et il est passionnant de voir que sur chez des auteurs, même les plus crus comme Sade, il y a à la fois un usage raisonné de l'obscénité la plus violente et de voile. Les roses du matin, Sade s'amuse à les employer. Sade va s'amuser dans une scène où absolument rien n'a été caché, à dire « nous sommes trop pudiques pour avouer ce qui s'est passé ». Et donc là, autre fonction de la mention de la pudeur, il s'agit simplement ici de faire rire le lecteur. Et c'est une relation de complicité. Mais là, la mention de la pudeur a une autre fonction. Et le texte qui, d'une certaine manière, est le plus pudique dans les deux tiers du roman, c'est les 120 journées de Sodome, dans lequel Sade n'a de cesse, enfin le narrateur sabien n'a de cesse de cacher des choses au lecteur, de lui promettre que bientôt plus rien ne lui sera révélé. On voit des libertins s'enfuir dans un petit cabinet, et c'est le texte qui est absolument le plus violent et le plus terrible de tous ceux qu'a écrit Sade. Donc il a là un usage stratégique et très violent d'une pudeur littéraire.
Éric Fiat.
Oui, je voulais vous poser une question. Donc vous faites une distinction entre littérature érotique et littérature pornographique. À propos de Casanova, justement, le voile littéraire, c'est en effet toutes les figures de style. Donc, la métaphore, la métonymie, l'euphémisme, etc. Et moi, je me délecte de cela. Et parce que je préfère en effet infiniment cette littérature. Casanova, alors évidemment, court l'Europe pour essayer de faire en sorte que les femmes aillent au-delà de leur première pudeur. Mais donc, il a besoin de cette première pudeur. Et la pudeur de Casanova, enfin, son respect de la pudeur, le lien qu'il fait entre l'érotique et la pudeur, il se trouve en effet dans des formules que je trouve absolument admirables. Écoutons un peu. « J'ai tenu l'IA, toujours inséparable de moi, jusqu'à 3 heures après minuit, et j'ai excité toute sa reconnaissance, lui faisant recueillir mon âme fondue dans le creux de sa belle main. » C'est absolument magnifique, ça. Recueillir mon âme fondue dans le creux de sa belle main. Là où, dans le cas de la pornographie, on aurait parlé de foutre dans la pogne, vous voyez. Un peu plus loin, Casanova dit « Par sentiment de reconnaissance, j'ai collé mes lèvres sur la bouche délicieuse qui avait goûté la quintessence de mon âme et de mon cœur. » Me paraît manière érotique, parce qu'au fond pudique, d'évoquer ce qu'un certain nombre de pornographes ne saurait plus parler, sans qu'il soit question de sperme avalé ou de pipe faite. Et chez Casanova, en effet, il y a ce respect du tempo féminin à propos d'une certaine Armeline. Plus je la découvrais innocente, moins je pouvais me déterminer à m'emparer d'elle. Et dans le texte que vous avez dit, il y a quelque chose comme un respect de la pudeur de la femme qui me paraît délicieux. Mais... Et donc, je suis heureux que vous fassiez cette différence entre littérature érotique et littérature pornographique. Pour vous, la littérature de Sade, est-elle entre l'érotisme et la pornographie? Quel statut, c'est la question que je voulais vous poser, quel statut lui donnez-vous?
Ben, le problème, c'est que si jamais, effectivement, vous ne trouverez jamais de foutre dans la pointe chez Sade, hein, qui est un très grand styliste, qui va employer foutre, qui va entre... Donc, bien évidemment qu'il y a cette différence du cru et du voilé. Donc, Sade, sur ce plan-là, ressortirait d'une littérature pornographique, mais... toutes ces catégories, là aussi, demanderaient à être historicisées. Si jamais, par exemple, on prend ce que j'avais fait dans des études antérieures, simplement les contenus de l'enfer, a priori, ça paraît être un critère de distinction. Quels sont les livres qu'on a mis à l'enfer, c'est-à-dire avec une cote enfer à la Bibliothèque nationale. Le problème, c'est qu'il y en a un certain nombre au 18e, et puis avec le 19e, siècle de la pudibonderie, pour le coup, on retourne dans les collections passées, et on ramène la cote, alors les spécialistes reconnaîtront, Y bis, qui était simplement des romans légers, voilés, pudiques, exactement comme ceux que Eric Fiat aime. Hop, on les a balancés sous la cote en fer, hein, et du coup ils versaient, ils étaient supposés verser dans la pornographie. Donc je pense que bien sûr que d'un point de vue de l'érotisme, Nersia s'oppose à Sade, mais le problème serait de penser que Sade, parce qu'il l'emploie des mots crus, n'est pas un styliste. Or, c'est un styliste extraordinaire, avec une autre matière.
Et inversement, on pourrait aussi dire que ce n'est pas parce qu'on emploie des mots crus qu'il n'y a pas de sentiment, parce que c'est aussi ça qui est en jeu. Alors, on va devoir se quitter peut-être sur cette idée.
Oh, c'est dommage. Je voulais juste vous demander, vous connaissez sans doute la préface que Jean Paulhan a donnée à Justine ou Les Infortunes de la Vertu, et il me semble qu'il dit quelque chose qu'il faut. Enfin, ça m'a jamais convaincu. Il dit, Sade refuse l'attrait littéraire, cet ingénieux système d'allusion dont Laclos tire la part la plus maligne. Est-ce que c'est pas un peu faux, ça?
Oui, je n'adhérerais pas vraiment, enfin, ça me semble un petit peu rapide.
Sous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chic, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous chic, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, enfilés. Sous-chic, c'est la pudeur des sentiments, maquillés outrageusement, rouge sang. Les dessous-chic, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie.
Bien, merci à vous deux, Jean-Christophe Abromovici, pardon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Encre de sang, Sade écrivain, c'est disponible chez Classique Garnier. Obscénité et classicisme, on peut le trouver au PUF. Puis vous avez aussi établi l'édition de La philosophie dans le boudoir ou Les instituteurs immoraux, donc texte de Sade, et c'est disponible chez GF. Et puis Eric Fiat, avant de nous retrouver demain pour la suite de cette semaine pudique, je rappelle que l'on peut lire de vous Corps et âme, c'est disponible aux éditions Cécile Defaux. Grandeur et misère des hommes, petit traité dignité, c'est chez Larousse. Et puis vos entretiens avec Pierre Magnard, La couleur du matin profond au Petit Platon. Et bien sûr, évidemment, cette semaine se fait à l'occasion de la parution des entretiens d'Adèle Vanrette avec vous, Eric Fiat, donc sur la pudeur, et que vous trouverez, chers auditeurs, coédité chez Plon et France Culture. Et donc, quant à nous, nous nous retrouvons bien demain pour la suite de cette semaine sur la pudeur. Et demain, c'est de la pudeur et l'impudeur de la maladie dont nous parlerons avec Eric Fiat, évidemment, et Claire Marin. Et quant à vous, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.